Ça va, on a encore une heure devant soi. Est-ce que c'est possible d'afficher la première diapo? Bon, les bonbons, ça va être plus pour les jeunes, hein, je suis désolé. C'est pas bon pour les dents, pour les autres. Jusqu'à quel âge? Je savais qu'on allait me poser cette question. Non, c'est parce que je dois acheter mon public jeune pour qu'il reste avec moi jusqu'au bout. Donc ça va être pour les moins de 25 ans. Premier paquet de bonbons à gagner. Qui peut me dire qui sont ces trois personnages? Non, t'es pas un jeune. Joël, c'est pas juste, t'as pas le droit. Vous avez entendu? Non, c'est pas grave. Paul, oui. Alors attendez, n'allez pas trop vite. Paul, parce qu'on a vu la dernière version, bien sûr, c'est pas l'original hein, de la Bible. C'est juste la dernière version filmée qui est sortie au cinéma. Marie Durand, super. Et un des frères de Jésus, c'est caché, mais c'est Jacques. C'est allumé. Deuxième petit défi. Est-ce que vous pouvez attribuer ces citations à chacun des auteurs? Donc on a dit, il y a Paul, Marie Durand et Jacques. Qui a écrit quoi? Non, les jeunes. Thomas, j'entends pas. Où ça? Résister Marie Durand. Oui? Ah, il faut les trois. C'est pas difficile normalement, c'est pas très difficile. Suffit de lire. Non. Jacques en troisième et Paul en deuxième. Ok, bon, j'envoie le paquet au fond. Bon. En bon chrétien, comme Marie disait, vous allez peut-être partager. On va lire. Donc Marie, elle a écrit résister. Durand. Pas Marie Gauthier. Paul a écrit les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Comment? Par une patience à toute épreuve. Et Jacques a dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc, quel est le thème de ce matin? Ça devient plus évident. Je voulais qu'on parle sur la patience ce matin. Et on passe du temps dans l'épître de Jacques. Pour quelques infos sur Marie Durand, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une personne qui a été emprisonnée pas très loin d'ici, à Aigues-Mortes, à la tour de Constance, en raison de sa foi. Elle a vécu dans les années 1700, elle a vécu 38 années en prison. Tout ça parce qu'elle refusait de renier sa foi. Et tout au long de sa captivité, elle a encouragé ses compagnes de captivité, et elle a écrit de très nombreuses lettres de remerciement à tous ceux qui essayaient de lui porter secours et d'aider ces femmes qui étaient emprisonnées pour leur foi. Et un des pasteurs célèbres est Paul Rabaut, qui était un Nîmois. Voilà. À tout moment, elle aurait pu laisser l'impatience la gagner. À tout moment. Et qui l'aurait blâmée? 38 ans, enfermée. Qui aurait blâmé cette femme? Personne. Un seul reniement de sa bouche et elle était libérée, elle était dehors. La tentation a dû être très forte. Parfois, je crois, à la limite du soutenable. mais la patience a accompli son œuvre en Marie. Et sans faillir en rien, elle a résisté. Paul, je trouve intéressant qu'il utilise cette qualité comme une preuve de son apostolat. Ce n'est peut-être pas la première chose que moi j'aurais mis en avant, mais lui, il le fait. Il dira par une patience à toute épreuve. Je suis apôtre au milieu de vous parce que je suis quelqu'un de patient. Il citera par ailleurs, dans d'autres passages, la patience comme faisant partie du fruit de l'esprit, venant donc de Dieu lui-même. Il ira jusqu'à dire « Fortifiez-vous en sorte que vous soyez toujours et avec joie patients. » Et enfin, l'auteur avec lequel on va passer un petit moment ce matin, c'est Jacques. Qui est réellement fan de cette épître pour... Maintenant, je m'adresse un peu aux plus vieux. Qui la lit régulièrement? Joël? Joseph? C'est bien, Yana. Super. J'avoue que pendant un temps, j'étais pas forcément super à l'aise avec cette épître. Parce qu'au premier abord, Jacques a quand même un franc-parler dans cette épître. Il utilise un discours assez direct et incisif. Il nous bouge, il nous recentre sur l'essentiel, il nous sort de la passivité, il nous met au défi sur la maîtrise de soi. Et il finit par nous rappeler le pourquoi de notre foi. Cette épître est un trésor, mes amis. Pour toutes ces raisons, je peux vous dire ce matin, prenez le temps. Prenez le temps de relire cette épître chez vous. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas relue, faites-le cette semaine. Relisez-la même plusieurs fois. C'est juste 5 petits chapitres. 5 petits chapitres, mais ô combien puissants. J'ai chronométré pour un lecteur lent, c'est 15 minutes de lecture. Ça va ? Pour un lecteur lent, bien sûr. Je pense que certains vont le lire en moins de 10 minutes. Prends ce temps, car comme Paul disait à Timothée, le serviteur du Seigneur doit être doué de patience. Paul donne ce conseil à Timothée. Le serviteur du Seigneur doit être doué de patience. Bien sûr, non pas qu'après la lecture de l'épître de Jacques, on reçoit la patience pour le reste de sa vie, mais l'enseignement de Jacques est puissant et va venir toucher les profondeurs de nos âmes. Pour information, Jacques était certainement le leader principal de l'église de Jérusalem. Est-ce que c'est possible d'avoir un verre d'eau ? Quand il y a une vive discussion entre Pierre et Paul, c'est lui qui prend la parole à Jérusalem et qui cite les Écritures et ça clôt le débat. On trouve ce texte dans Actes 15. Jacques est peut-être moins connu que l'apôtre Paul, mais c'était un homme d'une grande piété et d'une grande autorité. On raconte de lui qu'il a passé l'essentiel de sa vie chrétienne au temple, à Jérusalem, priant de telle sorte que ses genoux étaient devenus calleux comme ceux d'un chameau. C'est ce qui est écrit dans la littérature. Les historiens Eusèbe et Joseph rapporte qu'il a refusé de renier Jésus durant toute sa vie chrétienne, un peu comme Marie Durand. Et il en est mort, il a été lapidé à cause de son refus dans les années 60. Quand Jacques décide d'écrire cette lettre, l'église à Jérusalem, elle était persécutée. On se souvient des emprisonnements de Pierre et Jean, du premier martyr, bien sûr, Étienne, de Saul, de Tarse, qui semait la terreur parmi les Juifs, qui reconnaissaient leur Messie en Jésus, etc., etc. Jacques se devait d'encourager à tenir bon. La voie qu'il a choisie est celle de la patience. Soyez patients. Alors, on ne va pas lire l'épître en entier ce matin, bien sûr, hein, sinon on est là jusqu'à ce soir. Mais on va parcourir, on va survoler cette épître. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dans cette introduction, Jacques nous place dès le début au cœur du sujet. Pourquoi ? Parce que l'épreuve était forte à ce moment-là. La persécution faisait rage de toutes parts. Et le moyen d'en sortir vainqueur, c'était d'être patient. Nous savons grâce à l'histoire qu'une dizaine d'années après, le temple de Jérusalem lui-même est détruit. L'empereur Néron fait incendier Rome pour accuser les chrétiens et il multiplie les pendaisons ou autres mises à mort des confessants de cette nouvelle religion. La persécution va bon train, elle est oppressante et elle sévit n'importe où. Un discours fuyant de Jacques, où il évite le sujet des épreuves, n'aurait pas aidé ses frères et ses sœurs à l'époque à passer au travers de cette période. Mais Jacques était rempli de sagesse et il confronte l'épreuve face à face avec l'arme qui la vaincra, la patience. Jacques développe sa lettre en essayant de montrer les fruits de l'impatience, c'est ce qu'on va voir. Il n'essaie pas, bien sûr, d'être exhaustif, mais il essaie de donner des pistes sur lesquelles ses compagnons vont devoir prêter attention. Voilà comment Jacques construit sa lettre. Ça vous donne envie de plonger un petit peu les regards dedans ? Moi, ça m'a donné envie de comprendre le contexte et de voir voilà, pourquoi Jacques insiste-t-il tant sur cette valeur qu'est la patience. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'impatience, elle nous conduit à certaines choses. Et la première, c'est le doute. Quand tu es impatient, tu commences à douter. Il va dire, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques est en train de nous dire, aie confiance. La première chose, aie confiance en Dieu. Tu ne comprends peut-être pas certaines situations dans ta vie, mais ça c'est OK de ne pas comprendre. Demande à Dieu de t'éclairer, mais ne laisse pas le doute s'introduire dans tes pensées. Parce que sinon, tu vas rentrer dans un mouvement de ballottement, d'une pensée à une autre, d'une pensée à une autre. Et je crois que ça va te rendre malade. Qui a déjà pris le bateau et qui a déjà eu le mal de mer en cas de tempête ? Et c'est un peu ça qui se passe. Si on laisse le doute rentrer dans nos pensées, on est ballotté. Et alors on commence à se sentir plutôt mal. Et Jacques nous dit, non, ne laisse pas ça rentrer dans tes pensées. Ne doute pas, aie foi en Jésus-Christ. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est accuser Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange d'entendre ce double discours parfois chez les non-croyants. Dieu n'existe pas, mais immédiatement après, mais pourquoi est-ce qu'il laisse faire tous ces malheurs ? Pourquoi est-ce qu'il permet toute cette souffrance ? S'il était bon, il interviendrait. Donc d'un côté, il n'existe pas, mais d'un autre côté, c'est de sa faute. Ben, le doute installé conduit apparemment à accuser Dieu. Mais Jacques nous rappelle, attention, Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Celui-là, il s'appelle autrement, il s'appelle le diable. Ne laissons pas l'épreuve nous placer en opposition face à Dieu. et donc du côté du diable. Au contraire, courons vers Dieu. Il veut nous prendre dans ses bras, nous consoler, nous fortifier. Dominique en a parlé un petit peu ce matin. L'impatience peut nous conduire à délaisser la charité et à ne plus s'occuper du faible. Jacques dira, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Il est en train de décrire dans ce passage-là qu'il ne faut pas faire une distinction entre les pauvres et les riches. Et il faut croire que quand on est dans un temps un peu trouble, on a tendance à se rapprocher des riches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement de ceux qui sont forts, qui nous donnent un sentiment de sécurité. Alors Dieu n'est plus mon protecteur, c'est plus lui qui pourvoit. Je commence à placer ma confiance en l'homme et j'agis mal envers le faible. Jacques nous recentrera sur le commandement de Jésus. Il dira, rappelez-vous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il conclura sur ce point en rappelant que la foi n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée. La foi s'incarne, elle s'incarne dans nos œuvres, dans ce qu'on fait. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, un moyen de rester patient, c'est de s'occuper de l'autre, de s'occuper de celui qui est faible. L'impatience nous conduit aussi à modifier l'enseignement de la parole. Jacques dira, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On commence petit à petit à prendre que ce qui nous arrange dans la parole de Dieu. Nous commençons à faire des compromis avec le fameux « Mais est-il vraiment écrit ça ? Est-ce que c'est vraiment écrit, tu ne voleras pas ? Si c'est juste des bonbons ?» Dieu a-t-il réellement dit ? On se rappelle ce que Satan a suggéré au premier homme, à Adam. Le péché est à la porte, car la loi n'est plus quelque chose que nous aimons, mais elle commence à nous déranger. Jacques nous dira, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc un des moyens de rester dans la patience, c'est de rester sur ce que dit l'Écriture, de ne pas faire de tri, d'écouter et de continuer avec ma Bible sous le bras. Un autre point, l'impatience. Alors, cette épître est souvent connue pour ce point-là. Elle nous conduit à râler, à dire des choses où l'émotion prend le dessus. Jacques dira, la langue est aussi un feu. Notre bouche peut alors se mettre à dire du mal et à faire du mal. La colère et l'emportement sont à la porte. Mais Jacques répond, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. S'emporter, se mettre en colère, Jacques va dire, attention, attention, tu vas penser accomplir la justice de Dieu, mais peut-être c'est pas ça. Nous devenons alors durs et blessants, nous perdons quelque chose que la Bible place parmi les meilleures qualités. Quand nous sommes patients, nous arrivons à avoir cette qualité, mais quand nous devenons impatients, nous la perdons. Et cette qualité, c'est la douceur. Lequel d'entre vous et sage et intelligent. Ah, personne ne répond. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. La sagesse, elle est douce. Pourquoi ? Parce qu'elle est patiente. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, et vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, elle procure la paix. Elle est modérée, elle n'est pas dans les hauteurs. Elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà pour nos paroles. Et enfin, il va parler d'un dernier point par rapport au fait d'être impatient, c'est que ça nous conduit dans la convoitise. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Sans patience, Jacques va nous dire que les passions qui sont à l'intérieur de nous se déchaînent. La convoitise pointe le bout de son nez et nous conduit à pécher, à commettre l'adultère face à Dieu. Le désir de profiter de la vie devient très fort, peut-être trop fort. Nous voulons posséder maintenant. Cela devient une urgence. Je veux cette belle voiture, je veux cette belle maison, je veux le dernier téléphone, la dernière paire de chaussures, etc. Je peux me retrouver à dire des phrases du style « Il me le faut absolument, je ne peux pas vivre sans ça. » Ou encore « J'ai assez souffert maintenant, il faut que je profite au maximum, que je me fasse plaisir. » L'esprit de convoitise du monde est entré dans mes pensées et Jacques reprend en disant cette phrase « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est tranché quand Jacques parle, mais il y avait besoin, c'était un moment particulier. Bien entendu, l'enseignement de la Bible, de manière générale, ne s'oppose pas au fait de prendre du plaisir. L'opposition se manifeste quand mon plaisir devient la priorité absolue. Et Jacques a un franc-parler ici, parce qu'en même temps qu'il dit ça, il nous rappelle quelque chose de la plus haute importance. Vous savez quoi ? Il dit « Il », en citant Dieu, « il accorde au contraire une grâce plus excellente. » Amen. Quand nous sommes dans la convoitise, rappelons-nous toujours que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. Ce que le monde propose peut sembler attrayant, mais ce que Dieu propose est de loin le meilleur. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce que le monde propose peut sembler attrayant et est attrayant, mais ce que Dieu propose est de loin le meilleur. Alors quand on est... J'ai presque fini. Hein. Si jamais on est tombé dans ces travers de l'impatience, Jacques nous propose un remède au chapitre 4. Il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça, c'est encore une fois, ça paraît dur, mais ce qu'il veut dire, c'est humiliez-vous devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'à cette condition, il vous élèvera. Humilie-toi devant ton Dieu si tu es tombé dans un des travers. Si tu as péché face à Dieu, brise ton cœur devant lui. C'est ce que Jacques essaye d'expliquer. Ne reste pas sur ta position en disant « Non, il faut que je sois dur. Il faut que je sois dur. » Non, brise ton cœur devant le Seigneur et dis « Oui, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à être plus patient dans la vie avec toi. » En gros, ce que Jacques nous dit, c'est « Cours vers Dieu et repens-toi. » C'est simple. Cours vers Dieu. Ne cours pas ailleurs. Va pas voir le diable. Va pas voir le monde. Non. Cours vers Dieu et repens-toi. La conclusion, c'est midi. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin, et vous avez vu qu'à la fin, la fin, ce que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu a redonné. Sois patient. Voilà l'écho de cette épître. Comment ? En évitant de se laisser aller dans les choses qu'on a décrites, en évitant de laisser entrer le doute dans mes pensées, en évitant d'accuser Dieu pour ce qui m'arrive, en évitant de ne plus m'occuper d'une personne faible qui est autour de moi, en évitant de transformer l'enseignement de la parole de Dieu, en évitant de râler, de dire du mal de ceux qui sont autour de moi, ou encore en évitant de se donner à la convoitise du monde. Jacques nous dit, garde les yeux fixés sur Jésus, quoi qu'il se passe dans ta vie. Ta patience n'est pas vaine, elle est motivée par l'espérance glorieuse du retour de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il restaurera toutes choses, il te rendra tout ce qui t'a été volé, même la vie. Même la vie. Et Jacques fait une conclusion à la conclusion. Il paraît qu'il ne faut pas le faire, mais il le fait. Il dira, quand tu es dans la difficulté, quand tu te sens dans la difficulté, ne reste pas passif. Ne t'assois pas à te plaindre. Ce n'est pas ça la bonne attitude. Là, tu te trompes. C'est pas ce Dieu-là qui est avec toi. Quand tu es dans la difficulté, loue et prie. Loue et prie. Pourquoi ? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Être patient, c'est pas accepter et ne rien faire. Être patient, c'est toujours croire que Dieu va intervenir. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, on va prier. Seigneur, merci pour cet appel que tu nous donnes à être patients. Merci parce que ça fait partie d'un fruit de l'esprit. Nous savons que nous ne sommes pas patients par nature, mais que nous avons besoin que tu viennes planter la patience dans notre cœur. Seigneur, je te demande que cette église soit une église patiente, remplie d'espérance, Seigneur, d'espérance concernant ton retour, parce que nous voulons toujours garder les regards fixés sur toi, fixés sur ce grand jour, ce beau jour, ce jour terrible pour certains, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ce jour glorieux et merveilleux pour tes enfants. Et Seigneur, je prie que la foi que tu répands au milieu de nous, elle soit dégoulinante de ta patience, Seigneur. Seigneur, je veux mettre dehors le découragement de cette Église. Je prie que tout découragement s'en aille définitivement, parce que ta patience est là. On n'a aucune raison d'être découragé de quoi que ce soit. Tu nous dis simplement d'être patient et persévérant, de continuer à prier. Seigneur, tu vois les situations de chaque famille, Seigneur, dans cette église. Merci pour toutes les glorieuses délivrances que tu as déjà accordées, Seigneur, à de nombreuses, très nombreuses personnes. Et Seigneur, pour ceux qui ont encore des luttes, donne-leur encore plus de patience et de persévérance, Seigneur. Donne encore plus d'espérance, Seigneur. Que ce que tu n'as pas fait hier, ben oui, tu vas le faire demain, Seigneur. Voire, pourquoi pas, aujourd'hui, Seigneur. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen.
Amen. Merci, Farid. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à chacun, à chacune, une très, très bonne semaine. Si vous voulez donner votre cœur à Jésus, il y en a qui ont levé la main tout à l'heure. Je vous invite à vous avancer. Si vous avez besoin, y compris pour vous, pour quoi que ce soit, avancez-vous. Et puis, je vais demander aussi aux responsables de venir devant, qu'on puisse prier pour celles et ceux qui s'avancent. Merci. Bon dimanche. Bonne semaine.